Chers frères et sœurs, l'histoire de Bartimée est exemplaire de la condition du disciple du Christ. Et donc, il est tout à fait utile de lire ce texte pour découvrir ce qu'est la condition de toute personne qui, adulte, recevrait le baptême. L'histoire de Bartimée a été composée par cet évangéliste pour nous aider à penser ce que signifie être ce que seront plus tard les chrétiens. Le terme chrétien n'est pas vraiment encore utilisé à l'époque où l'évangéliste Marc écrit. Mais c'est bien de cela dont il s'agit. L'évangéliste se demande ce que signifie être disciple de Jésus de Nazareth, celui qui a été reconnu comme Christ. Et nous avons observé qu'il y a dans cette condition du disciple quelque chose qui est de l'ordre de la métamorphose. On pourrait dire que le bien que Dieu fait à l'intérieur se voit aussi à l'extérieur. Il y a donc une double métamorphose que nous allons essayer d'observer à travers cet épisode qui concerne Bartimée. Commençons justement par observer l'extérieur, ce qui se donne à voir immédiatement. Portons notre regard sur l'immédiatement visible. Il y a déjà beaucoup à apprendre de ces transformations extérieures que l'on peut constater chez Bartimée et qui disent ce que la foi chrétienne change pour quelqu'un, ce que cela change dans le rapport aux autres, ce que cela change dans notre place dans le monde, autrement dit, ce que cela change dans notre statut social. Nous allons constater que la foi chrétienne provoque des transformations sociales. Nous allons constater que la foi chrétienne n'est pas simplement une histoire privée, qui n'aurait de conséquences que dans la sphère de l'intime, chez soi, lorsque la porte est fermée à double tour. Je vous rappelle la situation initiale. Bartimée est une personne au bord d'un chemin. Il mendie. Il fait la manche, il est aveugle, il est assis, et il n'est pas assis n'importe où, il est assis du côté de Jéricho. Jéricho, c'est la ville la plus basse du monde. C'est une ville qui est en dessous du niveau de la mer. Bartimée, en étant assis à Jéricho, et l'homme qui est le plus bas du monde. C'est l'homme qui est en dessous de tout. On ne peut pas faire pire. Sauf quand on est mineur en bassin alésien, des choses comme ça. Bartimée, tel que le rédacteur nous le laisse entendre, est ce qu'il y a de plus bas et donc de plus misérable. À la limite, nous pourrions dire qu'il est comme un déchet abandonné au bord de la route. Il ne tient vraiment pas le haut du pavé, il est plutôt au fond du caniveau. Si je devais le dire en reprenant ce petit mot du vocabulaire chrétien que je vous ai rappelé tout à l'heure, on commence vraiment par indiquer la condition de pécheur de cet homme, qui est à distance de tout, qui est le plus éloigné possible d'une vie ressuscitée, relevée. Et si nous regardons maintenant de l'autre côté du récit, la situation finale, nous découvrons un homme qui est tout à l'opposé de ce qu'il était au départ. C'est un être dont la situation a été métamorphosée, renouvelée de toutes parts. Il était aveugle, il a recouvré la vue. Il était assis, il a bondi. Il était sur le bord du chemin, il est désormais dans le chemin. Il était seul, il est avec Jésus. Il est à Jéricho, la ville la plus basse du monde. Il se rend avec Jésus du côté de Jérusalem, qui est réputée être la ville au-dessus de toutes les villes. On ne peut pas faire plus fort comme contraste. On on ne peut pas dire de façon plus radicale la métamorphose entre la condition initiale et la condition finale. Il était mendiant, il va jeter son manteau, peut-être comme d'autres autrefois jetaient quelques pièces, un bout de nourriture. Il recevait, il est maintenant capable de donner. Au départ, notre Bartimée se trouvait à la marge du chemin. Il était à la marge du livre de l'histoire. Et il était à la marge de cette route qu'empruntaient les gens de la bonne société pour aller de Jéricho jusqu'à Jérusalem, la capitale, le centre névralgique de la société, le lieu où il faut être. Bartimée était un peu comme en panne sur son chemin. Ce chemin qui faisait monter les gens du plus bas de l'échelle jusqu'au plus haut. On peut dire que l'ascenseur social était bloqué pour Bartimée. Et voici que finalement, il n'est plus à la marge de l'histoire. Il va même pouvoir faire son entrée à Jérusalem, comme le fera Jésus plus tard, au moment de Ramon. Nous pouvons dire que, miraculeusement, Bartimée prend sa place dans une histoire dont il ne faisait plus partie qu'au titre d'élément de décor. J'utilise à dessein ce qualificatif de miraculeusement. Le miracle, dans la terminologie biblique, c'est le signe. C'est le meilleur en grec. Le signe, c'est ce qui fait sens. C'est quelque chose que l'on voit et qui fait sens, soit pour orienter notre vie, soit pour donner du sens à un enchaînement d'événements. Le baptême est un signe, disais-je. Le baptême a quelque chose de miraculeux. Le baptême est miraculeux dans la mesure où il donne du sens à une vie qui, comme cela, pourrait ne pas sembler en avoir beaucoup. Alors, je ne dis pas cela pour Yasmine, qui n'était pas une jeune femme dépourvue de sens. Mais le baptême nous rappelle, inlassablement, que notre vie n'est pas appelée à être chaotique, que nous ne sommes pas tel un fétu de paille constamment balotté par le cours des événements. Le baptême nous dit qu'il est possible de trouver du sens à notre existence, de pouvoir orienter notre trajectoire, de pouvoir lui donner des impulsions. C'est cela que Bartimée va éprouver. Cette histoire de Bartimée, ce que nous observons, va être particulièrement significatif de la condition du disciple du Christ, du chrétien. Bartimée est un signe qui permet d'orienter notre vie chrétienne. Entre le début et la fin de cette histoire, qu'est-ce qui change la situation finalement? La rencontre avec Jésus. Et qu'est-ce qui est au cœur de cette rencontre avec Jésus? Cette question que Jésus lui pose, que veux-tu que je fasse pour toi? Ça serait bien qu'à la fin de la journée, vous vous soyez vous-même posé cette question. Imaginons une rencontre avec le Christ qui vous demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Penser à cette question, c'est en fait ce qui peut déclencher la métamorphose que vous souhaitez. Il nous semble évident que Bartimée lui demande de recouvrer la vue. À la place de Bartimée, c'est certainement tous ce que nous aurions demandé. Mais ça, c'est parce que nos yeux voient. C'est parce que, pour nous, c'est insupportable d'imaginer quelqu'un qui est aveugle. De même que c'est insupportable d'imaginer quelqu'un qui est malade. C'est insupportable d'imaginer quelqu'un qui souffre d'une forme de handicap ou qui connaît un malheur dans sa vie, dans la mesure où cela n'est pas notre cas. Le malheur de l'autre nous embarrasse et c'est heureux il est normal de demander de recouvrer la vue lorsque nous sommes aveugles et parce que, justement, nous ne le sommes pas. Il y a tellement de situations dans la vie où nous nous habituons à notre malheur. Nous n'avons plus l'idée qu'il pourrait en être autrement. Et en fait, il est admirable que Bartimée songe à demander à Jésus de recouvrer la vue. Cela signifie qu'il ne s'est pas habitué à cet état de fait. Cela signifie qu'il continue à être scandalisé par ce qui lui arrive. Cela signifie qu'il est sensible au malheur et qu'il pourra lui-même être sensible au malheur des autres. Nos yeux qui voient sont donc capables de voir une situation problématique. Mais quand nous sommes nous-mêmes dans cette situation problématique, nous n'avons plus forcément la distance pour voir qu'il y a encore un problème. Pour un aveugle, dans la situation de Bartimée, demander à recouvrer la vue, cela ne va pas de soi du tout. Pourquoi voudrait-il voir à nouveau? Parce que s'il ne voit plus, ce n'est pas pour des raisons médicales. D'ailleurs, le texte ne dit pas que Jésus va guérir Bartimée. Le texte ne dit pas que Bartimée va être guéri de sa cécité. Le texte parle du salut. Jésus veut dire, va, ta foi t'a sauvé, non pas ta foi t'a guéri. Le problème de Bartimée n'est pas d'abord un problème ophtalmique. Une fois de plus, ce n'est pas le nerf optique ou la rétine qui est en jeu. C'est l'enchaînement de tout ce qui concerne la vue qui est en jeu. Notre capacité à accepter les images que nous voyons, la capacité à transmettre ces images à notre cerveau et à ce qu'elles fassent sens. Je veux dire par là que ce texte nous parle d'une personne qui est sauvée et non pas d'une personne qui est guérie, pour nous expliquer que l'aveuglement dont il est question est un aveuglement qui n'a pas de cause physiologique. Ici, Bartimée est sauvé de ce qui l'empêchait de voir. Alors nous pouvons spéculer sur les raisons pour lesquelles Bartimée ne voyait plus. Peut-être est-il sauvé de raisons terribles qui l'empêchaient de voir. Peut-être des raisons qui l'avaient conduit à ne plus vouloir voir d'ailleurs. Et cela est un phénomène assez classique. Plutôt que de voir des choses horribles, nous créons un système de défense qui nous empêche de voir. Nous ne voyons plus la misère dans la rue, et parfois l'horreur est tellement forte que nous ne voyons plus quoi que ce soit. Nous voilons la face au sens figuré du terme. De retrait en retrait, cet homme était peut-être venu à se retirer du monde des vivants pour rejoindre la nuit des morts vivants, des laissés pour compte, des marginaux, des exclus, du rebut de la société. Et voilà ce que Jésus va observer. Il y a du changement dans l'attitude intérieure de Bartimée. Ce qu'il y a de remarquable dans l'attitude de Jésus, c'est qu'il va comprendre que ce qui se voit à l'extérieur traduit aussi un changement intérieur. Jésus va repérer ce que Dieu construit dans cet homme qui se tient là, sur le bord du chemin. Cet homme, aveugle, mendiant, assis, plus bas que terre, qui va vouloir recouvrer la vue, dit que maintenant il veut vivre. Je veux vivre. Je veux exister, exprime-t-il. Voilà en fait sa réponse à la question de Jésus. Que veux-tu que je fasse pour toi? Cet homme dit, je veux vivre. Alors peut-être que pour vous, cela semble bien anecdotique. Mais en fait, il est tellement rare d'exprimer le fait, le désir de vouloir vivre, de vouloir exister. Le moment est donc venu d'observer les transformations intérieures. La sortie de la nuit va se faire par cet ordre de Jésus, va. Va, c'est un ordre que nous connaissons bien. C'est l'appel autrefois lancé par Dieu à Abraham, tel que nous le raconte le livre de la Genèse. C'est un appel à quitter son pays, sa patrie, la maison de son père, pour se rendre vers un lieu que Dieu lui montrera. C'est une façon de dire quitter ses déterminismes, laisser derrière soi ses surdéterminations. Par exemple, ce manteau qui a tellement pris notre forme, recourbé, ce manteau qui nous colle si bien à la peau, qui nous empêche d'avoir une grande liberté de mouvement. C'est comme ces habits que nous porterions pendant trop longtemps et qui se figent sur une position que nous avons adoptée et qui nous empêche toute autre position. Cela indique l'impossibilité de changer notre identité. Va, dit l'Éternel, à Abraham, pour que celui-ci fasse histoire. Va vers toi, comme le dit plus précisément le texte biblique, le texte hébreu, qui enjoint Abraham à faire un voyage en profondeur, à partir à la découverte de sa personnalité, à ne plus être simplement le décalque des autres, mais à découvrir ce qu'il y a inscrit au fond de lui-même. Non, Abraham, tu n'es pas simplement le fruit de ton pays, le fruit de ta culture, le fruit de ta famille, tu as une identité singulière. Tu as une identité qui n'appartient qu'à toi-même. Tu es un être original. Tu n'as rien d'un triste clone qui ne serait que le décalque de tous ceux qui t'ont précédé. Non, tu n'es pas condamné à vivre figé dans cette posture qui t'enfonce toujours un peu plus, qui creuse ta tombe, qui te met non pas simplement 6 pieds sous terre, mais 250 mètres sous le niveau de la mer. Alors, en partant à la conquête de son univers intérieur, c'est là le deuxième aspect que nous pouvons observer dans ce texte. Jésus permet à Bartimée de découvrir qui il est véritablement, indépendamment de ce qu'on a pu dire sur lui ou du regard que l'on a pu poser une fois pour toutes sur lui. Intéressons-nous à son nom. Intéressons-nous à la façon dont il est désigné. On l'entend au début de ce récit. Cet homme, c'est Bartimée. On nous dit que c'est le fils de Timée. C'est épouvantable comme expression. Ça vous semble normal. Bartimée, fils de Timée, c'est l'aveugle auquel on est habitué entre Jéricho et Jérusalem. Mais quand on y pense, c'est épouvantable comme expression. Parce que Bartimée en araméen, ça veut dire fils de Timée. Cet homme est surdéterminé. On l'appelle fils de Timée. Fils de Timée. Il n'est que fils de Timée. Mais Timée, je ne vous l'ai pas encore traduit. Mais en araméen, ça veut dire l'impureté. Vous imaginez un peu? Fils de l'impureté, fils de l'impureté. C'est donc facile à porter tout de même. Cet homme qui va dans un instant entrer en relation avec Jésus est nommé d'une manière redondante, puisqu'on dit qu'il est fils de l'impureté et fils de l'impureté. Ce redoublement indique que son identité est saturée par cette filiation qui quand même pose un peu problème. Et c'est une identité qui est saturée par les codes sociaux de l'époque qui disent « si tu es impur, tu n'as pas ta place parmi la société. Tu seras au banc de la société. Et estime-toi heureux déjà de pouvoir faire la marche. » Bartimée est un intouchable. On ne le réalise peut-être pas suffisamment. Ce n'est pas simplement quelqu'un de mauvaise réputation, c'est un intouchable. Ta foi t'a sauvé, précise Jésus, qui souligne bien qu'il n'est pas intervenu de façon surnaturelle. Il ne l'a pas guéri, disais-je. Jésus est simplement témoin de ce que la foi de Bartimée a accompli pour son salut. Et que sait-il Jésus de la foi de Bartimée pour être en mesure d'être aussi affirmatif? Eh bien, à travers ces éléments extérieurs que nous avons repérés, Jésus repère les changements intérieurs qui ont eu lieu avant. On pourrait revenir avec cette expression que Yasmine a utilisée tout à l'heure dans sa profession de foi, quand elle a eu une hésitation entre le néant et l'infini. Vous avez pu imaginer que c'était peut-être un effet de rhétorique. Je ne sais même pas si elle-même est bien consciente de ce qu'elle a dit. Mais cela s'inscrit dans une tradition biblique et une tradition théologique d'une très grande profondeur. C'est le chemin de Damas sur lequel Saül s'est engagé. Et c'est le moment de sa conversion. C'est le moment où Saül va devenir lui-même disciple du Christ, lui qui persécutait les chrétiens. Souvenons-nous, en une bride, de cet épisode. Il marche, il a la vision du ressuscité, il tombe, et nos traductions disent qu'il ne voit plus rien. Autrement dit, qu'il est aveugle. Et plus tard, il fera une rencontre qui lui permettra de faire tomber ces écailles qui lui permettront du coup de recouvrir la vue. Nous sommes dans une situation assez analogue. Mais revenons au livre des Actes qui raconte cette histoire de Saül qui a priori perd la vue. C'est une bien mauvaise traduction et une bien mauvaise tradition. Le texte grec ne dit pas que Saül ne voyait rien. Le texte grec est beaucoup plus subtil que cela. Il dit que Saül voyait rien. Et Maître Eckhart explique en disant que ce rien était Dieu. Il y a dans ce néant, dans ce rien, la possibilité de l'infini, la possibilité même de Dieu, qui s'exprime par une théologie négative qui permet, au fond, de rendre à Dieu sa véritable gloire. Ce que Jésus a pu observer est peut-être de la même nature. L'ardeur avec laquelle Bartimée s'est lancé vers Jésus, ne laissant pas à la foule la possibilité d'éteindre le feu qui est en train de porter son existence à son inconnaissance, est peut-être le signe d'une expérience analogue. On veut le faire taire, alors il crie de plus belle, parce qu'il est porté par l'infini, et qu'il n'y a plus aucune limite qui pourra faire obstacle à son désir de vivre devant Dieu. Jésus constate l'intensité dont fait preuve Bartimée, une intensité qui, selon Jésus, traduit le fait qu'il est saisi par ce désir d'absolu, qui soudainement trouve un écho en Jésus de Nazareth. Il entend que Jésus de Nazareth est présent et il comprend la conjonction qu'il y a entre ce Jésus, l'absolu, et ce qui est en train de se construire en lui. Et tout cela se connecte et cela s'appelle la foi. La proximité de Bartimée avec cet homme, qui incarne l'ultime, Jésus donc, a manifestement réveillé en lui cette passion pour la vie. Non pas simplement vivoter, non pas simplement avoir une activité biologique minimale, mais la passion d'une vie vécue en pleine lumière. Non plus une vie à la marge, mais une vie qui serait justement sur le chemin. Non plus le besoin de s'excuser en permanence d'être là, mais le fait d'avoir compris que nous sommes justifiés par grâce seule. Nous n'avons plus à faire nos preuves. Nous n'avons plus rien à montrer. Qu'il n'y a pas de lettre ou de noblesse à présenter. Il est juste et bon, nous soyons là. Point. Ce n'est donc ni de l'or ni de l'argent que Bartimée va demander à Jésus. Il n'en a que faire, il n'en a pas besoin. Ce dont il a besoin, c'est de la possibilité d'ouvrir à nouveau les yeux sur un monde qu'il ne craint plus, mais un monde qu'il peut aimer à son tour, comme Dieu a aimé ce monde. Voilà ce que Jésus a repéré, manifestement, dans l'effervescence qui anime Bartimée. Le signe de son goût pour l'infini, de son intuition que l'état dans lequel il se trouve n'est que temporaire et que cela ne doit pas durer. Qu'il y a plus à vivre, plus à éprouver que ce à quoi il était ordonné jusque-là. Bartimée vaut plus que ce qu'on a fait de lui. Le moins que rien, celui qui n'est qu'importé aux yeux de la société, est reconnu par Jésus comme étant traversé par une transcendance. Une transcendance qui le redresse, qui le fait bondir, qui le rend infiniment plus grand que ce qu'il pouvait imaginer de lui-même, qui le fait tenir debout en lui-même, qui le ressuscite, qui lui fait ouvrir les yeux donc, qui le réveille d'une vie qui jusque-là était merveilleuse. Jésus ne guérit pas. Jésus est témoin d'une transcendance qui peut ressusciter intégralement Bartimée. Alors en fin d'après-midi, parce que j'espère que tout cela sera réglé pour vous avant la soirée, quand vous serez demandé ce que vous diriez si on vous demandait « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Le frémissement aura trouvé un haut degré d'accomplissement. Et vous serez en mesure de dire oui à cette autorisation qui vous est donnée par grâce au Seigneur. Jésus, pour ce qui concerne Bartimée, répond bien au-delà de la demande. Parce que Bartimée vaut infiniment plus que cette histoire d'aveuglement ou de non-aveuglement. Et d'ailleurs, Jésus fait bien plus que restaurer la dignité de cet homme. Il fait bien plus que de le remettre en chemin. Bartimée cesse d'être le spectateur aveugle d'une histoire qui passe continuellement devant lui, qui s'écrit sans lui, pour devenir acteur de sa propre histoire. Celui ou celle qui devient disciple du Christ, après avoir été saisi par ce désir d'absolu, après avoir été saisi par ce sentiment de dépendance absolue à l'égard de l'Éternel, après avoir été saisi par la foi, donc, celui-là est rendu libre. Et c'est ce que traduit le fait de recouvrer la vue. Bartimée est désormais libre de s'orienter. Bartimée est désormais libre de donner du sens à sa vie. Bartimée est désormais libre de mener sa propre existence. Libre d'être soi. Voilà ce que nous avons chacun à vivre avant que minuit sonne ce soir.